Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le deuxième volet de notre série de cette semaine, Mauvais départ pour le siècle, comment préparer la suite. Soir de Noël, bienvenue à tous. Notre invité se considère comme un catastrophiste raisonné. Il assume tout à fait ce terme, un peu décourageant, un catastrophiste éclairé, si l'on préfère, pour reprendre les mots du philosophe Jean-Pierre Dupuis. Et il plaint plutôt ceux que n'inquiète pas l'état de la planète. Voilà pour lui, les vrais utopistes, ce sont eux. Lui, avec d'autres, se veut réaliste. Il a écrit « Comment tout peut s'effondrer », petit manuel de collapsologie à l'intention des générations présentes. Puis « L'entraide », l'autre loi de la jungle, et il vient de publier « Une autre fin du monde est possible, vivre l'effondrement et pas seulement y survivre ». Bonsoir Pablo Servigne.
Bonsoir Dominique Rousset.
Agronome et biologiste de formation, donc de formation scientifique, vous dites, on va voir un petit peu l'esprit de ce livre de déformation scientifique, le D est entre parenthèses. Tout peut s'effondrer, donc vivre l'effondrement, pas seulement y survivre. On est d'accord, Pablo Servigne, que le point de départ, c'est on ne discute même pas de ce qui est en train d'arriver, baisser de 3% par an les émissions. On n'y arrivera pas, réduire de moitié pour les pays développés en 10 ans, on n'y arrivera pas, ne pas dépasser les 2 degrés souhaités par les rapports du GIEC, le groupe
noir. Ça devient quand même difficile.
Les experts, difficile
ça,
un peu.
Ça devient difficile.
Est-ce qu'on dit impossible ou on dit difficile?
Mais on peut pas dire impossible, il faut toujours laisser une part d'incertitude, mais on voulait pas perdre du temps à justement à ressasser encore les mêmes constats. On a écrit un bouquin là-dessus, il y a énormément de faits partout qui nous montrent, qui convergent. Ça devient indiscutable. Les climato-sceptiques ou climato-négationnistes, comme on les appelle, ont de moins en moins voix au chapitre. Enfin, c'est devenu inaudible. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on essaye de pas devenir fou? Comment on se remet de ces mauvaises nouvelles? Comment on va de l'avant? C'était ça l'élan du livre.
Voilà, loin, parce qu'en fait cet effondrement, vous prononcez le mot d'effondrement qu'on entend de plus en plus d'ailleurs. Hein. On a d'abord parlé de dégâts de l'environnement, on a parlé de transition aujourd'hui. Ce terme d'effondrement revient beaucoup dans le discours, y compris dans le discours politique.
Absolument.
Il est très anxiogène, il faut le dire.
Alors il est anxiogène, mais pas que. Il provoque un changement d'imaginaire, d'horizon, un grand déclic chez beaucoup de gens. Ça remet en action. On a vraiment eu au contact du public des lettres incroyables, des retours qu'on a. Ça met en mouvement, parce que c'est un autre récit, et ça met du sens à notre époque. Et depuis cet été, depuis la démission de Nicolas Hulot, les grandes canicules, des publications scientifiques hallucinantes sur le climat, il y a beaucoup de choses qui ont provoqué, qui ont fait bouger des grandes lignes, mais dans l'inconscient populaire, je dirais, il y a une sorte de mythologie, il y a quelque chose de l'ordre du mythe qui est en train de bouger comme des plaques tectoniques. Il y a eu les vagues de migrants, de réfugiés, il y a eu Trump, il y a eu le Brexit, il y a eu les attentats de Paris, tout ça en quelques années, ça a fracturé à chaque fois un peu plus cet imaginaire, si bien qu'aujourd'hui la question d'un possible effondrement systémique global à venir est vraiment à l'ordre du jour. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des effondrements, c'est ça qui est intéressant, il y a déjà des espèces, des populations d'animaux qui s'effondrent, il y a déjà des classes sociales, des pays, des régions qui sont en train de s'effondrer ou qui se sont effondrées. Donc c'est une question du passé, du présent et du futur, et on est en train de manier des chiffres, des faits, et en même temps des récits, un imaginaire, et puis des émotions, et tout ça, il faut le regarder en face, c'est-à-dire avec courage, et pour ça, il faut essayer de pas devenir fou. Et le problème, c'est que si on ferme les yeux, on ferme les oreilles, on bouche les oreilles, et on n'y pense pas, on devient fou aussi, parce qu'il y a une dissonance cognitive immense.
Alors je raconte une petite anecdote, Pablo Servigne, si vous le voulez bien. Vous étiez à Paris au début du mois, vous habitez en province, et vous étiez à Paris pour un procès que l'on vous fait. Alors racontez-nous, c'est une initiative que je trouve très intéressante du journal Uzbek Magazine sur le futur, hein, qui prépare justement au futur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
de
procès ?
C'est le magazine Uzbek Erika qui s'intéresse au futur, et tous les ans ils font un tribunal des générations futures. Donc c'est une mise en scène au théâtre de la Porte Saint-Martin, il y avait 1000 personnes.
Plein à craquer, voilà, il faut le dire.
Et donc l'année dernière, ils jugeaient Google. Et cette année, on jugeait les collapsologues, donc je représentais les collapsologues, ceux qui pensent que on va vers un effondrement, qu'on peut limiter les dégâts, etc. etc. Et donc j'étais l'accusé.
De quoi est-il accusé alors?
Alors il y avait 3 chefs d'inculpation, il y avait Audrey Pulvar, c'est la présidente du jury, et puis il y avait des témoins de la défense, de l'accusation, etc. Alors les 3 chefs, c'était... On nous accusait, un, de défaitisme, de saper le moral des troupes, alors que justement on a besoin d'entamer une grande transition, etc. 2, d'être le gourou d'une secte. Les collapsologues, c'est un groupe de sectaires, voilà. Et puis, le troisième chef, c'était finalement qu'on a fait un peu une synthèse pseudo-scientifique. On fait de la pseudo-science avec de l'émotion, de l'intuition. Et en fait, que tout ça, c'est un peu vague et flou. Et donc, j'ai été finalement, parce qu'il y a eu du suspense dans cette soirée, il y a les jurés qui sont tirés au sort dans la salle. Et puis, vraiment, les plaidoiries doivent essayer de convaincre le juré. À la fin, ils ont délibéré. J'ai été acquitté sur le chef d'inculpation de gourou d'une secte et acquitté sur la pseudo-science, mais j'ai été condamné pour défaitisme à 4 voix contre 3.
Parce que vous inquiétez les populations avec tout ce que vous dites.
Il y a quelque chose de l'ordre de la peur. Mais ce que je disais au tribunal, c'est intéressant, c'est que qu'est-ce qui est sidérant ou déstabilisant, qui fait peur? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est le Cassandre, le porteur de message? Ou est-ce que ce sont les faits? Si vous êtes chez vous, il y a quelqu'un qui toque, votre voisin qui dit « Ah, il y a un incendie au sous-sol », qu'est-ce qui fait peur? C'est votre voisin ou c'est l'incendie? Mais c'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi on accuse les collapsologues? Nous, on est des lanceurs d'alerte, finalement. Par contre, il faut arriver à avoir le courage de voir l'incendie, de se dire, ça y est, c'est maintenant, il faut passer à l'action, sortir de l'état de sidération, se relever, retrouver un autre imaginaire.
Et surtout accepter de vivre avec, parce qu'encore l'incendie, voilà. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, l'incendie, on peut l'éteindre. Là, on est vraiment dans un processus.
Ça va être compliqué de l'éteindre.
Ça va être compliqué.
Il faudra vivre avec.
Et vous êtes passé de la collapsologie, donc vous venez de dire le mot, à la collapsosophie, c'est-à-dire la sagesse, au fond, accepter l'effondrement. On va y venir. La grande question, donc, c'est comment prendre maintenant cette certitude entre le déni qu'on élimine et l'action. Il y a beaucoup de réponses possibles. Peut-être qu'on pourrait un peu repasser plusieurs notions. La notion de survivalisme, comment la définissez-vous? Parce qu'elle est beaucoup associée à des gens qui se mettent en communauté, qui reprennent des modes de vie sauvages. En fait, ce sont des gens qui recherchent l'autonomie, qui se détachent des autres.
C'est un mouvement très hétérogène, déjà, qui a une histoire dans les années 70.
Vous ne me reconnaissez pas là-dedans?
Un peu. Mais ce que je dis, c'est qu'on a, tous un survivaliste en nous. Chacun, il faut l'accepter. Et cette part de physiquement, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais survivre, c'est important. Je pense que si on rejette cette part en nous, c'est compliqué. Après, sur le mouvement, c'est autre chose. C'est très hétérogène. Déjà, dans les années 70, c'était plutôt l'extrême gauche qui se préparait à un hiver nucléaire en faisant des communautés, etc. Ici, maintenant, c'est plus teinté à droite, extrême droite, mais c'est encore très hétérogène. Je pense qu'il y a des gens dans tout l'échiquier politique qui commencent à se préparer. Et on est plus alors sur la préparation à des chocs sociaux, politiques, environnementaux, des grandes catastrophes industrielles, etc., des effondrements financiers, peut-être moins l'apocalypse nucléaire, mais il y a vraiment de tout, et j'insiste bien, c'est hétérogène. En France, c'est très différent des États-Unis. On est plus dans stage de retour à la nature, apprendre à vivre dans la forêt. Et ouais. C'est moins le bunker doré où on stocke des vivres, des armes. Et ça, c'est plus aux États-Unis. Donc,
j'allais venir à cela, parce que précisément, le survivalisme, c'est pas seulement tous les mouvements un peu parallèles comme ça, mais les riches aussi peuvent faire du survivalisme à leur manière. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qui s'est passé en Californie avec ces incendies effroyable auquel on a assisté, et on en verra sans doute beaucoup encore, où les plus riches s'organisaient, entre guillemets, en recrutant des pompiers privés. J'ai trouvé ça très frappant.
Mais
est-ce
ça,
que c'est une forme de survivalisme? Ou d'égoïsme, enfin je ne sais pas comment le qualifier.
Il y a quelque chose d'intéressant ces temps-ci, c'est que c'est Bruno Latour qui met vraiment bien ça en évidence. Il y a un acte de sécession des plus riches, d'une élite économique et politique, qui sont très informés. Certains sont très informés.
C'est ça que je voulais vous emmener, oui.
Et d'autres sont vraiment pas conscients ou n'ont pas envie de savoir, mais il y en a beaucoup qui savent et qui se préparent. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens d'aller vite, c'est-à-dire de se construire un bunker doré. Alors, parfois c'est ridicule, parfois ils se préparent en faisant des réseaux, etc. Mais il y en a qui s'achètent des terres en Nouvelle-Zélande avec des potagers, pour aller s'isoler. Ils ont un jet privé qui les amènera là-bas. C'est un signe des temps, c'est-à-dire qu'ils renoncent au projet des Lumières, au projet universel. Il y a une pagaille, ils sont grandement responsables et ils se barrent. Il y a une question de survie dans tous les échiquiers politiques et dans toutes les classes sociales. Il y a des projets incroyables, par exemple de bateaux autonomes qui resteraient des mois, voire des années en mer pour des hyper riches, en attendant que les émeutes et tout l'effondrement se passent sur Terre, et après ils reviendraient quand tout serait passé. Enfin, il y a des projets absolument incroyables. Et le survivalisme, c'est quelque chose qui est plutôt basé sur la peur, et qui crée une attitude, du coup, un peu de repli, alors soit en communauté, soit tout seul, enfin voilà. Je pense que c'est ok de ressentir ça, on a tous peut-être un peu ressenti ça. Après, quand on reste coincé dedans, c'est problématique. Ce qu'on invite dans le livre, c'est aller au-delà. C'est-à-dire que on peut se préparer, mais j'ai rencontré beaucoup de survivalistes qui ont eu cette phase de repli. Ils ont été sidérés, ils ont eu peur, ils ont fait des stocks. Et à un moment, ils s'ouvrent, ils se rendent compte que, en fait, tout seul...
Voilà.
On peut survivre des semaines, des mois, mais on peut pas survivre tout seul, on peut pas vivre.
Autres.
Comment on fait pour passer de survivre à vivre? Comment on refait un projet de vie? Comment, voilà. Et la clé, c'est faire du lien. Et donc, ces gens-là, eh ben, ils retrouvent du lien avec les voisins, ils vont s'engager au conseil municipal, ils se rendent compte que la vraie résilience, le vrai bunker, c'est les liens sociaux. C'est ça qui nous protège. C'est l'entraide par anticipation.
Vous partez de trois récits. Alors là, évidemment, très, très connu, Robinson. Qui se retrouve tout seul, comme on sait, qui s'organise assez bien, comme on sait aussi, qui arrive à construire.
C'est un bon survivaliste, Robinson
Crusoe. C'est un survivalisme extraordinaire, mais il est seul, et en fait, il a besoin de quelqu'un, et ça s'arrange quand il rencontre quelqu'un.
Oui, alors dans le film, il parle à son ballon.
Oui,
exactement.
Et c'est le premier récit.
Et il perd son humanité, en fait, Robinson Crusoe, à être tout seul, c'est comme un survivaliste, ouais.
Donc il lui faut rencontrer un humain. L'autre, là, c'est une fable, la cigale et la fourmi. Là aussi, on est dans le survivalisme. C'est la cigale, la survivaliste.
C'est la fourmi, je veux dire. La fourmi, c'est le symbole du réseau survivaliste français.
Tant pis pour eux,
celle
j'avais qu'à y penser.
Stocks. Et voilà, et tant pis pour les cigales qui viendront des hordes affamées, qui viendront des villes. Alors ça, c'est un imaginaire très fréquent. Dans ce ressentiment, cette colère de la fourmi qui n'est pas écoutée aujourd'hui, qui fait des stocks, on se moque d'elle et ce ressentiment va ressortir. Par contre, mettons en parallèle avec la fable des trois petits cochons.
Ah bah oui, ma préférée.
Ou justement, le troisième petit cochon qui a construit une maison.
Les deux premiers, on le rappelle pour ceux qui ne l'ont plus en tête, les deux premiers construisent une maison de paille.
En paille
une
et en bois,
bois.
Qui sont soufflés par
soufflés
la puissance
par
du loup.
Le loup qui souffle très fort. Et le troisième.
Et le troisième qui construit une maison en briques, qui est survivaliste finalement. Il se prépare aux catastrophes, au loup.
Mais pas seul.
Et il l'accueille. Ses frères. C'est-à-dire que la différence entre la fourmi et le troisième petit cochon, ce qu'on dit, c'est la fraternité avant les catastrophes. C'est ça qui permet au troisième petit cochon d'ouvrir sa porte aux deux autres cigales, en fait, qui sont venues, qui disent « Ah, au secours, le loup, ouvre-moi ta porte !» Et on partage un repas en toute fraternité. À la fin du compte, ils mangent le loup même dans la marmite. Alors le loup, on a actuellement une bonne idée de sa puissance, du changement climatique, la biodiversité, les pollutions, c'est fou. Et donc, vraiment, l'idée principale pour se préparer de manière plus large, c'est de créer une culture de l'entraide, une fraternité, parce que ça nous donnera une manière de nous relever, en fait, et d'éviter cette grenade sociale, de désamorcer une grenade sociale qui peut nous péter à la figure assez violemment.
Je le rappelle, Pablo Servigne, je l'ai dit en commençant, vous êtes un scientifique, même si vous avez pris un peu de distance aussi avec les travaux strictement universitaires, ou en tout cas dans votre mode de vie personnel, et vos deux collègues aussi, donc vous niez pas du tout cette communauté-là, au contraire, et le livre s'appuie sur beaucoup de travaux. Vous avez cité Bruno Latour, on peut parler de Philippe Descola, on peut parler de beaucoup de chercheurs aux États-Unis et ailleurs. Ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est que vous voulez justement opposer, ou en tout cas associer à cette dimension strictement scientifique, une dimension psychologique. Et ça ne marche pas toujours justement avec la communauté scientifique. Et vous dites même de manière un peu drôle encore que, voilà, on parle pas que pour les femmes, merci pour elles, on parle pas que pour les bobos, pour les bisounours, pour le New Age, on parle pour tout le monde, et la communauté scientifique ne veut pas voir cette dimension psychologique. On connaît ce phénomène en économie aussi, hein.
Oui, alors
Pablo Servigne.
C'est vrai que les catastrophes, elles concernent tout le monde. Le réfugié qui est traumatisé.
Mais elles sont prises un peu de haut par.
Alors, dans la communauté scientifique, il y a des chercheurs, peu, mais ils font des études magnifiques sur la psychologie des catastrophes, la résilience, les chocs post-traumatiques, etc. C'est passionnant. Donc, on est parti effectivement de ce constat qu'on avait besoin de traiter les émotions. Si on est juste dans les chiffres des catastrophes, ça provoque tellement d'émotions, il faut les traiter, il faut les accueillir, il faut les écouter, il faut devenir compétent en fait en émotions. Et en fait, paradoxalement, nous, notre démarche a été scientifique. La science a découvert des choses sur la psychologie des émotions, sur le stress post-traumatique. Et donc, on est parti de là. Par contre, il faut aussi les vivre. Et nous, au contact des gens, dans les conférences, les ateliers, les rencontres, on a traité toutes ces émotions, des groupes d'écoute, sur l'effondrement. C'est passionnant et ça fait du bien. Ça fait un bien fou de sortir sa colère, de sortir sa tristesse, de dire qu'on est désespéré. C'est sain de dire qu'on est désespéré. Parce que on bousille votre habitat. C'est normal. Quelqu'un qui ne ressentirait pas aujourd'hui du désespoir, de la tristesse, de la colère, de la honte, de la culpabilité, que sais-je, il y en a plein. Ceux qui ne ressentent pas ça, c'est plutôt mauvais signe, plutôt un sociopathe ou un psychopathe, je veux dire. Et alors, faut pas les traiter tout seuls. Si on reste avec ça, c'est toxique.
Bien sûr. Mais ces gens-là sont découragés devant l'inertie, pour commencer, devant le désintéressement, par exemple, des proches, parfois, de leurs proches, mais des gouvernants aussi. Au fond, ils se disent, mais c'est pas possible, on ne nous écoute pas. La collapsologie, c'est ça. Leur discours, il est... Et ça, vous l'avez vécu, j'imagine.
Oui, il y a plein de choses qui font péter les plombs. Hein. Le pas être écouté, le sentiment d'impuissance. Enfin, alors, en général, quand on découvre ça, ces catastrophes, par les livres ou des conférences YouTube, il y a un effet de sidération et on se sent seul. On a envie de partager pour être moins seul. Et alors, on essaye de convaincre les proches et souvent, ils le prennent mal. Et l'attitude de convaincre est pas très productive. Je pense qu'il faut plutôt arriver à partager, vouloir partager. Mais c'est délicat comme art de discuter de ça. On s'engueule souvent, donc ça peut braquer. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire des groupes d'entraide, des cercles, en fait, d'entraide et d'écoute pour commencer à sortir, accueillir ces émotions et pas les mettre sous le tapis parce que ça nous reviendra sur la figure de manière très désagréable.
Comment expliquez-vous la résistance de certains gouvernements dans le monde et qui ne va pas en s'arrangeant?
Le déni, vous voulez dire?
Oui, déni.
Alors là, donc, beaucoup de choses. Il y a une biodiversité des dénis,
évidemment économique, mais on reste un peu sur la psychologie.
Alors, il y a les dénis individuels et les collectifs. Dans les individuels, il y a ceux qui ne veulent pas savoir, ceux qui ont peur de savoir, ceux qui ont peur d'avoir peur, ceux qui ne savent mais veulent pas croire. Ça reste dans la tête, mais ça n'entre pas dans le corps, dans le cœur, ça ne change pas l'horizon, l'imaginaire, bon, bref, il y a un peu de tout. Et puis il y a ceux qui savent, qui croient, et qui ont des postes à responsabilité, mais qui n'ont pas forcément les manettes, tout simplement le mandat. Ils n'ont pas été élus pour ça, pour se préparer à l'effondrement, même s'ils ont envie de le faire. Peut-être qu'il y a des ministres ou des gens, des hauts fonctionnaires, et je pense qu'il y en a, hein, qui sont conscients de tout ça, mais c'est pas leur mandat, donc ils sont coincés. Il y a vraiment un grand problème de structure, de conception du système politique qui traite déjà le court terme, alors qu'on est dans des questions de long terme, des questions globales, vastes, et notre appareil politique n'est pas designé pour ça. C'est très compliqué. On est dans une inertie, un verrouillage systémique qui empêche le changement, qui empêche qu'on tourne, qu'on fasse cette transition, qu'on limite les dégâts. Et c'est pour ça que cette cristallisation nous mène, précipite en fait les catastrophes.
Le citoyen qui est de ce monde, le fils de terre et fille qui les féconde, la terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein. Ni de fourmis, un nid plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'uni, 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 l'univers. Est beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand. Relatif est notre avenir, relatif à son désir, le désir du maître des êtres, qui peut-être va nous faire disparaître. Relatif est notre avenir, sa colère sera éphémère, le petit saut d'humeur et la terre ne sera plus que vapeur. Par Jupiter, il se fâchera quand il s'apercevra qu'une petite sphère faite de terre et de mer va trop vite sur son orbite. Il nous fera disparaître. Il nous fera une pichenette.
j'aurais déjà disparu. Je m'éclipserai dès demain. Je m'en vais dès demain. Sur mon char, je me barre, je vais loin dans la terre.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie ce soir de Pablo Servigne, une autre fin du monde est possible, comment vivre l'effondrement, pas seulement y survivre, c'est le titre de son tout dernier ouvrage paru au Seuil, la collection Anthropocène du Seuil, et on écoutait à l'instant Dick Annegarn, qu'on n'a pas oublié j'espère, ce chanteur et l'univers. Je ne sais pas dans quelle année il a écrit cela, mais c'était assez prémonitoire. Pablo Servigne, on parle donc de collapsologie, hein, vous l'avez beaucoup défendu, et vous allez plus loin avec collapsosophie, donc on est là dans la partie d'une ouverture plus large, au fond, à l'émotion, à l'éthique, hein, aux réactions même spirituelles, à la métaphysique, et on a dit que ce n'est pas très courant chez les scientifiques, mais les scientifiques aussi souffrent de savoir.
Oui, oui, oui. Les spécialistes,
on imagine, qui
mais les écologues, les climatologues, les spécialistes des traumatismes, de catastrophes, des ouragans, les sociologues, il y a des souffrances vraiment, et ils s'interdisent par souci d'objectivité. C'est la culture scientifique, s'interdisent de montrer leurs émotions. Moi, je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut les sortir. Alors, ça commence un petit peu, mais imaginez quelqu'un du GIEC devant toutes les caméras du monde qui se met à pleurer. Pour ses enfants, mais imaginez la puissance de ces images, ça serait fou. Mais je pense que ouais, les climatologues souffrent, il y a de la dépression, il y a vraiment du désespoir, ils sont proches des chiffres, ils peuvent pas se mentir. Donc on doit traiter ces émotions, et en fait on est parti de la science, hein, collapsologie, le logos, pour finalement découvrir qu'il y avait d'autres questions. Ça touchait des questions éthiques, qu'est-ce que le bon et le mauvais dans ces tempêtes, dans les années à venir, comment redéfinir tout ça, des questions métaphysiques, qu'est-ce qu'on veut devenir, qui on veut être, qui on veut être au monde, comment on se représente le monde. Finalement, ça ouvre à des questions spirituelles, pas religieuses, mais vraiment de quel est notre rapport au monde. Et là, on peut toucher à des différents peuples, cultures qui ont d'autres ontologies, d'autres rapports au monde, disent les anthropologues, philosophes. Et puis, des questions artistiques, comment on s'imagine, on fait donc recréer d'autres récits, etc. Et donc, toutes ces questions qui sont pas forcément traitées par la science, ou en tout cas bien traitées, et que la science ne doit pas même traiter. On a regroupé ça sous le terme collapsosophie, la sagesse, parce qu'il faudra ça pour apprendre à rester debout et à imaginer un horizon. Alors, ce que je précisais juste, qui est important pour toute cette question de l'effondrement, peut-être les auditeurs qui découvrent pensent que là, je suis en train de plomber l'ambiance et de fermer l'avenir. Et ce qui compte, justement, c'est de ne pas fermer l'avenir, de faire en sorte que tous ces chiffres soit des opportunités, ou ce récit soit une opportunité pour recréer d'autres horizons, pour réouvrir les avenirs.
Nous et avons appelé ça. Notre série « Préparer la suite hein ». On essaie de...
Et mais exactement, préparer la suite.
De l'anticiper et surtout de la vivre, quoi. Avec cette
de
formule,
s'imaginer.
Oui, avec cette formule que j'ai relevée sans doute dans votre livre. Demandez-vous bien sûr ce que vous pouvez faire, mais aussi ce que vous pouvez être.
Mais ça, c'est la question spirituelle par excellence. Alors, voilà. Celui qui m'a décomplexé sur la spiritualité, parce que j'avoue que j'étais un peu frileux sur ce terme et sur tout ça. Déjà, on a vécu des choses avec Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens et d'autres.
Il y a vos co-auteurs.
Les co-auteurs. Des expériences dont on reparlera peut-être dans quelques minutes autour de l'éco-psychologie, etc., qui nous ont fait changer. Mais c'est Dominique Bourg qui m'a décomplexé avec son dernier livre « Une nouvelle terre », où il dit « Mais attends, simplement, la spiritualité, c'est quel est notre rapport au monde, à ce qui nous est donné à la naissance, on reçoit tout, des parents, de la nature, quel est notre rapport avec tout ce qu'on n'a pas produit dans notre vie ?» Est-ce que c'est de la gratitude, la réciprocité? Voilà, c'est notre rapport au monde. C'est simplement ça. C'est une question que tout le monde devrait se poser. Et l'autre aussi, la double définition, c'est qui on veut être, notre accomplissement de soi. Ça, c'est une question aussi fondamentale que tout. Voilà.
Trois étapes vous proposez toujours dans ce travail. La première, comment, pour le dire vulgairement, comment encaisser, hein, comment supporter l'impact psychologique, comment partager. La deuxième, changer le regard, déjà un autre regard sur la science et le savoir, mais aussi s'ouvrir à d'autres cultures qui sont peut-être mieux armées que les nôtres,
un rapport à la nature qui peut être différent.
Équipé, outillé, armé, c'est un peu.
Oui, pardon, équipé, outillé. Vous n'aimez pas évidemment le mot armé. Je le retire. La troisième, celui-là, il va vous plaire, c'est celui des tisserands, vous les appelez ainsi, tisser des liens avec nous-mêmes et avec les autres. La première étape, on en a déjà parlé, c'est la peine écologique, c'est le chagrin après la perte, hein, la violence du changement climatique. On est les grandes catastrophes, bien entendu, mais aussi la perte de ce qui a été notre vie.
Il y a des paysages,
l'abeille, le jardin, les océans qui ne sont plus propres, les saisons qui ont bougé. C'est traumatisant parce qu'on perd quelque chose de ce qu'on a eu.
Extrêmement traumatisant parce qu'on a créé des liens avec tout ça. Et perdre les liens, c'est ça, un deuil, un traumatisme, une perte qui entraîne de la peine. C'est ça, c'est se rendre compte qu'on a perdu beaucoup. Et alors les scientifiques parlent de perte écologique qui entraîne de la peine écologique, ecological loss. Et donc il y a des questions du deuil. Il y a un mot aussi intéressant, c'est la solastalgie.
Oula.
La solastalgie, un peu comme la nostalgie, sauf que c'est le sentiment de perte, de peine, suite à la perte de paysages, de nos enfances, du monde qui nous avait construit, en fait. Et c'est extrêmement violent, que ce soit les fermiers en Australie qui subissent des sécheresses hallucinantes, qui voient leur bétail crever, des Inuits ou des peuples en Alaska qui n'arrivent plus à les chasser parce qu'il y a la fonte de la neige, il y a le déplacement de population, il y a une perte de culture, ils n'arrivent plus à transmettre à leurs fils, aux générations d'après. Il y a une perte de confiance en soi, il y a une honte aussi. Il y a beaucoup de sentiments très durs, très violent de ces changements globaux. Et ça, ça commence à être bien étudié. Enfin, c'est vraiment passionnant.
La tristesse, la colère aussi.
La colère,
la peur.
Et les tristesses, colère et peur sont très ambiguës. C'est pas des sentiments négatifs qu'on doit mettre sous le tapis. Par exemple, il peut y avoir des peurs qui mettent en mouvement. Il peut y avoir des colères saines. La colère, la rage de vivre ensemble dans les ZAD, ils ont une rage qui est saine. La tristesse, le désespoir. Derrière, il y a quoi? Il y a l'amour que vous portez à des choses, à des êtres vivants, à des paysages, etc. C'est signe de votre amour.
Un point important, en se méfiant, dites-vous, de l'optimisme et de l'espoir, et vous allez jusqu'à, enfin, vous citez Sénèque, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. C'est si dangereux, l'espoir?
Alors,
vous dites, c'est assez peu étudié par la science, c'est dommage d'ailleurs, hein.
Ouais, sur l'espoir, c'est intéressant. Il y a un type d'espoir qui est assez toxique, c'est le fait d'attendre, esperar en espagnol, espoir ça vient de attendre en latin, attendre quoi? Que le Messie vienne, que le Père Noël vienne, donc il y a dans l'espoir quelque chose de passif, de j'attends, attendez, quelle solution vous m'apportez là? Est-ce que ça va marcher? Ça c'est une question qu'on entend souvent. Est-ce qu'il y a des chances que ça réussisse, qu'on éteigne l'incendie? Et on attend d'être consolé. Oui, madame, oui, monsieur, il y aura une chance. Allez-y, venez avec nous dans cette transition.
S'arranger.
Non, mais non, il faut avoir le courage. Même si on n'est pas sûr de réussir, il faut se mettre en avant. Et cet élan de se mettre en avant maintenant, sans attendre, sans voir dans le futur, sans se retirer du moment présent, c'est ce que Joanna Macy, une éco-psychologue, a appelé l'espoir actif. En français, ça a été traduit aussi par l'espérance en mouvement. C'est maintenant, c'est faire ce qui est juste, ce qui nous semble juste, et d'y aller, de se retrousser les manches, et d'y aller, et pas d'attendre. Dans l'espoir, il y a vraiment une ambiguïté qu'il faut démêler.
Une question très, très importante, vous voulez te poser aussi avec vos deux collègues, les enfants. Alors vous précisez d'ailleurs que vous êtes trois jeunes pères de famille, que vous avez eu des enfants qui ont été désirés après la prise de conscience de l'effondrement, hein, puisque vous l'appelez vous ainsi. Que faut-il faire ? On entend beaucoup de gens, on commence à entendre des gens, on ne peut pas faire d'enfants dans ce monde, c'est absurde, c'est égoïste, d'abord il va y avoir trop de monde, ensuite cette pollution est insupportable, c'est polluant de faire des enfants.
Oui, on entend ça beaucoup, moi je trouve ça recevable, beaucoup de couples.
Il y a des études là-dessus, hein, sur les couples qui refusent de faire des enfants.
On appelle les GINKS. C'est GINKS en anglais, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, ceux qui décident consciemment de ne pas avoir d'enfants. Alors maintenant, c'est l'argument écologique, parce que ça pollue, etc. Je trouve que c'est recevable. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis que je comprends vraiment. Moi, j'ai décidé d'en faire, enfin j'ai décidé avec ma compagne, et il y a nous on était plutôt dans un élan vital de mettre au monde des êtres vivants, qui peut-être auront la possibilité de régénérer de la nature, de faire d'être en lien avec le sauvage, de reconstruire ce qui a été détruit, je sais pas, d'aller vers un autre horizon. On est dans cet élan, mais Je comprends tout à fait que le désespoir, la peine ou ce qu'on peut ressentir, ça peut être temporaire aussi. Ben, empêche de faire des enfants. Moi, j'ai reçu des lettres de personnes qui nous disent « J'ai lu votre livre, eh ben, j'ai décidé de plus avoir d'enfants. » Et inversement, il y en a qui disent « J'ai lu votre livre, eh ben, je veux avoir des enfants. C'est maintenant, je vais bouger, je vais vraiment m'engager. » Et la personne qui voulait plus avoir d'enfants, 6 mois après, elle m'écrit, elle m'a dit « Je suis dans la colère. » Et alors, 6 mois après, elle est à toutes les phases du deuil. On a décidé de refaire un deuxième enfant. On a fait un potager, on a fait ça. Ça va pas être assez. On va faire du lien. Et j'ai vu enfin toutes les phases du deuil. Donc ça peut être temporaire aussi de
pas. Parce qu'il faut leur dire quoi? Les enfants sont très sensibles en plus. Toutes les questions d'environnement, on l'a tous constaté.
Alors, ils sont très sensibles. Ils sont beaucoup plus alertes, réceptifs, beaucoup plus souples.
Mais peut-être parce qu'ils n'auront connu que ce monde-là.
Voilà, c'est leur. Mais nous aussi.
C'est leur monde.
Nous, on a vécu, on est arrivé dans ce monde, ce siècle. Déjà ravagé. Il y a 2000, il y a 10 000, il y a 50 000 ans, la biodiversité était incroyable et on n'a pas vécu ça. Et donc pour nous, la normalité, c'était quoi, les années 70, 80, 90, alors que c'est déjà un monde ravagé. Et on est là, on se débat avec. Et puis même quand nous, quand moi en tout cas, je serai un vieux con, mes enfants, je caricature, mais ils seront plus adaptés à leur monde. Ça sera leur monde dans 20, 30 ans. Je sais pas, peut-être que ça sera plus difficile, mais ils s'en sortiront aussi. Il y a quelque
chose. Donc leur dire la vérité, mais leur dire avec nos mots à nous.
Mais vous le savez, quand vous êtes pas aligné, vous dites quelque chose pas avec le cœur, ils le sentent tout de suite. Ils sentent le malaise. Il faut être franc. Et je trouve qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est-à-dire que dans les études sur le deuil, sur la mort, les enfants qui sont proches de la mort, qui ont des maladies graves, etc., ils ont une sagesse incroyable. Ils apprennent beaucoup de choses aux adultes.
Sur d'autres visions du monde, on a déjà cité, je crois, Philippe Descola, enfin mentionné, cette coexistence donc moins conflictuelle entre les humains et les non-humains. Il l'a mis en avant déjà il y a de nombreuses années. Cette fin souhaitée au fond de l'anthropocentrisme, vous y revenez aussi, hein, penser autrement. Vous avez cité vous-même aussi Bruno Latour sur l'échec au fond de la modernité que nous croyons avoir mis en avant.
Oui, on a beaucoup mis l'accent sur la modernité, depuis trois siècles, c'est la prise de pouvoir, on pourrait dire, de la raison, la séparation nature-culture, lorsque Descola appelle le naturalisme. Il faut sortir du mot de nature, il faut arrêter d'employer le mot nature, c'est ce qu'il dit, parce que on est la seule culture qui a séparé l'humain de la nature. Les autres cultures ne comprennent pas pourquoi on a fait ça. Alors, il y a l'animisme, le totémisme, il y a d'autres classifications. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'arriver à voir que avant le naturalisme européen, il y a quelques siècles, il y avait aussi des cultures celtes, animistes, ici en Europe. On n'est pas obligé d'aller voir en Amérique latine d'autres, ou loin en Australie, je sais pas, d'autres cultures, ça peut être en Europe, d'autres manières d'être au monde. Quel lien on a avec les non-humains, les autres qu'humains, les plantes, les bactéries, les champignons, les animaux? Comment on les considère? Comment on entre en réciprocité avec eux? Est-ce qu'on peut parler, discuter, dialoguer avec des salamandres, avec des panthères, avec des pins, avec des sapins, des arbres, des champignons? C'est des questions qu'on n'a pas du tout l'habitude, alors que d'autres peuples font. Et donc, ils ont des relations d'interdépendance, des relations beaucoup plus riches, beaucoup plus résilientes, on peut dire.
Et ils ont à nous apprendre.
Alors, peut-être. C'est vraiment l'hypothèse. Je dis, on pourrait aller voir ce qui se passe là-bas et apprendre, nous, à nous remettre en connexion et à sortir de ce grand mutisme, comme l'appelle Dominique Bourg. On est aveugle et sourd aux cris que nous hurle la nature. On n'a plus appris à faire
à
ces
l'entendre.
Liens. Voilà. Et donc, toute la posture et l'élan, c'est de refaire du lien. Tout à l'heure, on parlait du lien entre scientifiques, entre disciplines, c'est notre entreprise transdisciplinaire, du lien entre les scientifiques et le reste, la collapsosophie, on décloisonne en fait. Refaire du lien avec nous-mêmes, nos émotions, qui on veut être, refaire du lien avec les autres humains, apprendre à vivre ensemble pour éviter les catastrophes, l'entraide, la fraternité.
Il y a beaucoup d'expériences formidables d'ailleurs sur ce sujet.
C'est incroyable, c'est foisonnant.
Elles sont recensées maintenant. Ouais.
Et puis il y a les liens avec les autres qu'humains, avec les non-humains, mais des liens sincères qui durent, et ils ont beaucoup à nous apprendre, et nous on a beaucoup à leur donner aussi. Et puis les liens, c'est le dernier, les liens avec ce qui nous dépasse, avec ce qu'on ne maîtrise pas. Parce que là on est dans les questions qu'on ne maîtrise plus, le changement climatique, tout ça, ça rend fou. Et donc, en désacralisant tout, la modernité, la science, même le capitalisme, depuis 3 siècles, depuis 2 siècles, on a séché notre société de sens et de lien. Et en désacralisant, on a perdu ces capacités de traiter ce qui nous dépasse, c'est-à-dire la question du sacré.
Parlez-nous de Johanna Messi, vous l'avez cité tout à l'heure, éviter la déconnexion avec la nature. Pour elle, c'était quand même le grand problème, vous venez de le dire aussi. Et c'est une manière aussi de nous déconnecter avec nous-mêmes. Donc elle prône ça, se rapprocher davantage de nos émotions.
Oui, et ça fait un bien fou.
C'est ça qu'on appelle l'éco-psychologie.
Voilà, c'est ça, c'est un mouvement. Alors il n'y a pas que elle, il y a beaucoup d'auteurs, c'est passionnant, c'est très développé dans le monde anglo-saxon. Il y a quelques livres traduits de Johanna Macy, M-A-C-Y, pour ceux qui veulent
oui,
aller chercher. Alors c'est Gauthier Chapelle.
On va les mettre sur notre site
pionnier,
d'ailleurs, ces références.
Ici, dans le monde francophone, Gauthier Chapelle a rencontré Johanna Macy, s'est formé alors en Belgique. Avec Elena Terelen et Corinne Momen à Troyes, ils ont fait une association qui s'appelle Terreveil pour amener cette méthodologie qui vient des États-Unis, de Johanna Messi. En France, c'est Claire Carré avec les roseaux dansants. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ça fait 40 ans qu'elle fait ça, Johanna Messi. Elle va avoir plus de 85 ans.
C'est une dame
âgée maintenant,
oui.
Vivante. Oui. C'est une grande, grande dame, vraiment une sage. C'est très beau. Et elle est spécialiste des théories des systèmes. Elle est prof à l'université, de systémique, etc., de pensée holistique. Et en même temps, elle était bouddhiste. Elle a été formée au bouddhisme. Et donc, elle est vraiment dans cette culture de l'interdépendance radicale de tous. Et la question nucléaire l'a frappée dans les années 80. Elle voyait les burn-out des militants. Ça détruit vraiment les gens qui s'opposent, les écologistes. Et pour prendre soin des gens, pour sortir les émotions, elle a fait des ateliers, une méthodologie comme ça, inspirée de plein de cultures dans le monde, pour refaire des liens, tous les liens dont je vous ai parlé, là, les quatre liens avec soi, avec les autres humains, etc. Et ça nous rend résilients, ça nous fait du bien, ça nous remet en avant, mais toujours avec cette lucidité des catastrophes. Et elle parle d'effondrement, de collapse, c'est très très décomplexé chez elle, que Gauthier lui demandait, mais... pourquoi vous faites ça encore à 85 ans? Quelle est votre force? Et elle a répondu à Gauthier, mais c'est pour qu'on évite quand les tempêtes arriveront, quand ça arrivera, pour éviter qu'on se tape sur la gueule. Pour moi, c'est fondamental de refaire du lien par anticipation.
Ce que vous voulez, Pablo Servigne, c'est au fond qu'on raconte d'autres histoires, c'est-à-dire qu'on stimule notre imagination, notre créativité. C'est pas du tout défaitiste, hein, ce que vous... J'y reviens, parce qu'évidemment, tout ce que vous dites là, comme... vous le reconnaissez vous-même, peut paraître un peu plombant, hein, c'est le terme que vous avez utilisé. Mais vous souhaitez au contraire stimuler cette envie de créer autre chose, d'aller vers autre chose.
Mais oui,
alors vous citez par exemple l'écoféminisme, vous citez d'autres formes de littérature, la science-fiction.
Il y a tellement de choses, c'est foisonnant.
Et ça, il faut y aller parce que ça nous aide à...
pour retrouver un imaginaire, se réimaginer.
La littérature de science-fiction, hein,
oui, l'anticipation. Mmh. On a besoin des auteurs de science-fiction, c'est un outil politique incroyable pour se recréer des avenirs. Et on a besoin de recréer l'éco-psychologie pour traiter le lien entre notre psyché et la nature qui a été détruit, démoli. L'éco-féminisme pour aussi d'autres grilles de lecture ou d'autres moyens d'action. C'est magnifique ce qu'ont fait les écoféministes.
Avec cette américaine extraordinaire, Starhawk.
Ici, à Emilia.
Qui est une activiste, hein, féministe.
Les éditions Cambourakis en France qui font un travail formidable. Il y a vraiment un foisonnement.
Pourquoi? Parce qu'ils imaginent un autre monde?
Parce qu'il y a d'autres moyens d'action. Elles pensent différemment. Elles incluent l'intuition, d'autres moyens d'action moins carrés, moins dans la tête, moins dans la... Moi, ça m'a aidé à me décomplexer aussi sur le fait d'amener des questions de l'ordre de l'intuition, de même de la magie. Il y a faire des rituels devant le Pentagone, ce qu'elle faisait dans les années 80, il me semble, si je me souviens bien. Pour tisser des liens, alors elle faisait des actions pour conjurer la peur du nucléaire, l'apocalypse nucléaire, et ça redonne une joie de vivre, ça redonne de la vie à l'action politique, et elles apportent beaucoup de nouveautés. Je trouve ça extrêmement stimulant. Alors je dis pas que c'est la panacée, mais ça peut stimuler et colorer beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a tellement d'autres choses. En fait,
par l'image aussi.
Mais partout, l'image, la poésie, rechercher le beau aussi, c'est important. C'est signe qu'on est sur le bon chemin. En fait, on est vraiment dans une démarche d'élan de vie, d'aller vers l'avant. Par exemple, quand on vous dit il y a un incendie dans votre maison, vous êtes là sur le fauteuil, vous regardez la télé, puis il y a des gens qui toquent. Il y a un incendie au sous-sol.
Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ça.
Ouais. C'est une métaphore que je reprends souvent parce qu'elle est efficace. C'est-à-dire, on est sidéré. On nous dit. Vous êtes défaitiste, les collapsologues. Est-ce que vous diriez aux pompiers qui arrivent, monsieur, vous êtes défaitiste, arrêtez de parler d'incendie? Mais non, on ne dit pas ça. S'il y a un médecin qui arrive et qui vous dit, écoutez, vous avez un cancer, il vous reste 6 mois à vivre. Est-ce que vous allez dire au docteur, vous êtes défaitiste, arrêtez? Mais non, le docteur, il est là pour vous aider à vivre le mieux possible, à traiter votre maladie, etc., donc à vous accompagner. C'est pas du tout du défaitisme ni du pessimisme, de se mettre en avant pour éteindre l'incendie, de se bouger, de s'organiser, où est-ce qu'il y a de l'eau, comment on peut faire, qui sont encore dans les étages, est-ce qu'on peut sauver les gens. C'est pas du défaitisme de voir l'incendie. Et il y a quelque chose de l'ordre du déni, de retourner dans
son fauteuil. En fait, ce que vous dénoncez, c'est l'inaction, on est dans l'inaction.
Et la peur d'avoir peur, la peur du message, la peur de souffrir, la peur du... En fait, c'est la peur de la mort. La peur des souffrances, la question de l'effondrement, c'est un miroir, ça nous met en face de la peur de la mort et ça nous projette nos propres ombres. Et ça fait, dans notre société qui traite assez mal finalement la question de la mort, on met ça sous le tapis, on ne veut pas en parler, et ben ça c'est des grandes ombres qui nous reviennent dans la figure parce qu'on les a mises sous le tapis.
Alors, qui sont les tisserands aujourd'hui ?
Ceux qui réparent
le tissu déchiré du monde.
C'est une belle expression du philosophe Abdennour Bidar. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de tisserands aujourd'hui. On parle des créatifs culturels, une classe sociologique, mais c'est tous les gens qui justement recréent du lien, tous ces liens dont je viens de parler, parce que.
Ça reste très. Pas marginal, c'est injuste, parce qu'il y a énormément d'expériences très intéressantes. Pour parler des États-Unis, par exemple, bon, il y a Donald Trump, d'accord, mais il se passe des choses extrêmement intéressantes dans de nombreux États, y compris d'ailleurs au niveau des gouverneurs de ces États, mais surtout des expériences citoyennes, et puis partout dans le monde. Mais quand même, ça reste c'est fragmenté. Je veux dire, il n'y a pas de décision collective encore.
Non, par contre.
Et à votre avis, on en est encore loin?
Et je sais même pas si c'est souhaitable d'homogénéiser ce mouvement. Mais par contre, je peux vous dire que c'est énormément de gens. C'est une partie immense de la population.
Ça doit donner confiance, ce que vous dites.
Mais regardez tous les documentaires qui sortent, les livres sur les expériences, les jeunes pousses, ça foisonne de partout. Les tisserands, ils sont partout. Seulement, c'est pas un mouvement cohérent, qui a pris conscience de lui-même, qui est organisé, qui a un chef, etc. Non, c'est comme un mycélium, un champignon, c'est organique, ça pousse là où on l'attend pas, et comme c'est la boutade des graines, ils nous ont enterrés, mais ils ne savaient pas qu'on était des graines. Voilà, les ZAD, c'est typiquement ce mouvement horizontal, décentralisé, organique, fongique.
Qu'on devrait prendre plus au sérieux, alors?
Ah, mais bien sûr, c'est les laboratoires du futur, c'est des îlots de possibilités. Alors, je dis pas que ça va réussir ou que c'est la solution miracle, mais c'est au moins des laboratoires où on essaye d'autres ontologies, d'autres manières d'être au monde, d'autres moyens d'action, de lutte, parce qu'il faudra lutter, il y aura des rapports de force, ça risque d'être violent, donc se préparer à ça, mais aussi il faudra en même temps, et c'est pas l'un ou l'autre, mais reconstruire des alternatives, et en même temps traverser tout ce chemin intérieur et spirituel, et éthique, etc. C'est en même temps qu'il faut tout faire, c'est passer d'un monde du « où » un monde du « et ». Il faut faire tout ça en même temps et décloisonner, faire du lien.
Je reprends votre tout dernier chapitre, c'est même dans la conclusion, je crois, vous faites un jeu de mots entre apocalypse...
Et happy collapse.
Happy collapse.
Faut-il choisir? Peut-être pas. Peut-être qu'on vivra une apocalypse et un happy collapse.
Eh bien, merci infiniment, Pablo Servigne. Merci beaucoup d'être revenu nous trouver. Vous étiez déjà venu à Matière à penser. Et vous allez un petit peu plus loin, vous aviez beaucoup parlé, je me rappelle, de l'entraide. Une autre fin du monde est possible, vivre l'effondrement, entre parenthèses, et pas seulement y survivre. C'est le titre de ce nouvel ouvrage que vous avez écrit avec deux camarades, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Gauthier Chapelle, donc, vous l'avez dit, qui a beaucoup approché Madame Johanna Messi. On mettra en ligne leurs travaux et les vôtres, bien entendu. Merci pour cette leçon d'optimisme. Restons quand même là-dessus. Merci encore. Et aussi à notre petite équipe du soir. Anne-Laure Chanel réalise l'émission, bien sûr, avec Pierrick Monsigny. Et c'est Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, qui assure la documentation et la préparation de notre émission. Dick Engarn a chanté L'Univers, nous avons trouvé très belle cette chanson, on vous y renvoie. Et sur notre site, beaucoup de lectures. Tiens, on parlera aussi de Ouzbek, le magazine Ouzbek.
Ouzbek Erika.
Ouzbek Erika, voilà, ce magazine sur le futur qui s'interroge beaucoup donc sur toutes ces questions dont nous avons parlé. Bonsoir à tous, à demain.